Un sentiment qui nous est parfois familier, c'est le sentiment de culpabilité. Et pour cela, j'aimerais qu'on regarde deux textes ensemble. Le premier se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. On lira les versets 74 jusqu'au chapitre 27, le verset 5. Matthieu chapitre 26, 74. Alors Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme !» Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois !» Et étant sorti, il pleura amèrement. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et un autre texte en 2 Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, je lis le verset à partir du verset 8 et jusqu'au verset 11. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produite en vous ? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. On connaît les deux personnages, Pierre et Judas. Ils ont vécu l'un à côté de l'autre pendant 3 années avec Jésus. L'un a renié son maître, en jurant et en faisant des imprécations, « Je ne connais pas cet homme !» L'autre l'a tout bonnement trahi, livré pour de l'argent. Bien que ce ne soit pas dit en autant de mots que cela, on devine dans ce passage une grande tristesse chez ces deux hommes. Pierre pleure amèrement. Et Judas est visiblement tourmenté. Ils sont l'un et l'autre ravagés par le sentiment de culpabilité. Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, explique qu'il y a deux types de tristesse. Il y a une tristesse selon Dieu et une tristesse selon le monde. L'une est une amie, l'autre une ennemie mortelle. L'une, c'est la méthode divine pour nous convaincre de péché, nous corriger et nous transformer à l'image de Jésus-Christ, afin que nous lui ressemblions de plus en plus. L'autre est une méthode diabolique pour produire en nous la honte, pour nous condamner et entraver notre marche chrétienne au moyen du découragement. Nous tendons l'oreille à ces passages parce que nous avons l'impression de nous être déjà trouvés dans une telle circonstance, dans une telle situation. Parce que nous sommes pécheurs et que l'on vit dans un monde de pécheurs, alors on est souvent confronté à cette culpabilité. La culpabilité, c'est une composante incontournable de l'existence humaine. Tous, un jour ou l'autre, éprouvent ce sentiment terrible de culpabilité. Comment donc distinguer la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde ? Comment distinguer la tristesse de Pierre et la tristesse de Judas? Comment rechercher la tristesse selon Pierre ou de Pierre, et puis éviter la tristesse de Judas? J'aimerais relever tout d'abord ce que la tristesse selon Dieu n'est pas. Au travers de ce que l'on voit de la situation de Judas, la tristesse selon Dieu n'est pas seulement une prise de conscience. Pierre et Judas ont pris tous les deux conscience de leur péché. Ils ont réalisé qu'ils avaient fait quelque chose d'extrêmement grave, l'un et l'autre. Pierre, lorsque le coq chante, il y a quelque chose qui traverse son âme. Il est brisé, humilié. L'autre, Judas, lorsque la condamnation, la sentence de la condamnation à mort de Jésus tombe, il réalise « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Je suppose que, connaissant l'innocence de Jésus, il pensait que ses adversaires se borneraient à lui infliger quelques coups ou qu'il échapperait à cette condamnation. Il faut certainement que l'œuvre commence par une prise de conscience, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de réaliser le péché. Ce n'est pas non plus la tristesse selon Dieu, ce n'est pas seulement avoir des remords. On voit ici que Judas a clairement eu des remords. Les personnes violentes avec leurs conjoints ont parfois aussi des remords. Des remords bouleversants, pathétiques. Ils mesurent ce qu'ils encourent, ils mesurent ce qu'ils risquent, non seulement devant la justice des hommes, mais aussi par rapport à la ruine de leur foyer. Alors ils font mille excuses, ils deviennent très attentionnés, ils deviennent serviables, ils deviennent doux, jusqu'à ce qu'ils s'autorisent à nouveau un débordement de violence verbale ou physique. Ce n'est pas cela la tristesse selon Dieu. Ce n'est pas non plus la tristesse selon Dieu, ce n'est pas seulement faire machine arrière ou regretter. Parce que Judas, lui, sent vivement que sa conduite a eu un caractère odieux. Cet argent lui brûle les mains, le brûle le cœur, le brûle la conscience. Il regrette amèrement ce qu'il a fait et il rend l'argent. Contrairement à Pierre, qui, quand il a entendu le coq chanter, n'a pas dit « Oh, si, si, c'est vrai, je le connais. Oui, oui, je suis avec lui. » Non, il ne l'a pas dit. Il est parti, il savait ce qu'il risquait en disant cela. Je veux dire par là que c'est pas simplement machine arrière, la tristesse selon Dieu. Ce n'est pas non plus seulement une confession. Parce que là encore, Judas est exemplaire, il confesse, il dit « j'ai péché ». Il dit « j'ai péché en livrant le sang innocent ». Et il le fait, non pas devant le premier badaud, il le fait devant les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, les principaux sacrificateurs, qui sont aussi les principaux intéressés. Je relève ici une chose importante, c'est que parfois, on confesse notre faute dans le but de soulager notre conscience. Comme si on était un peu moins coupable parce que l'on avait effectivement reconnu qu'on était tel ou tel pécheur. La tristesse selon Dieu, ce n'est pas seulement ça. On voit que Judas, malgré toutes ces choses, n'a pas connu cette tristesse selon Dieu, mais une tristesse selon le monde qui l'a poussé au désespoir et au suicide. À côté de Judas, Pierre n'a pas fait grand-chose. Il a pris conscience et il a pleuré amèrement. Et je voudrais tirer une première conclusion de cela, c'est que la tristesse selon Dieu est une affaire de cœur. Elle est une affaire qui n'est pas nécessairement visible au regard des hommes, parce que c'est une affaire entre le pécheur et son Dieu. Elle n'a pas besoin de mots. Elle n'a pas besoin de gestes ou d'actes. C'est une tristesse premièrement
envers Dieu.
La tristesse selon Dieu est occupée par le point de vue divin. Et c'est pour cela que il nous est quasiment rien dit sur cette tristesse de l'apôtre Pierre. Elle se passe entièrement devant Dieu. La tristesse selon Dieu aussi, peut-être ça peut nous aider à discerner, à distinguer les deux. Je voudrais voir quatre choses. La tristesse selon Dieu, elle est momentanée, elle porte sur des faits réels, elle exige un sacrifice et elle a pour résultat la repentance. Tout d'abord, la tristesse selon Dieu est momentanée. C'est ce qui s'est passé aux Corinthiens. Il dit, je vous ai attristé pour un moment, momentanément. Le plaisir du péché, il est de courte durée, tandis que la tristesse qu'il produit est durable. La tristesse de la repentance, par contre, est brève. Et la joie qu'elle apporte est vraiment durable. Ainsi, si vous êtes constamment attristé par une chose que vous avez faite il y a des années en arrière, vous savez que c'est une tristesse selon le monde et non provenant de Dieu. Dans le livre des Lamentations, j'aimerais vous lire juste deux, trois versets. C'est Lamentations chapitre 3, verset 31. Lamentations 3, 31, il dit « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. » Dans le psaume 30 et au verset 6, il est écrit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Quand le Seigneur nous convainc de notre culpabilité, c'est pour nous faire connaître son pardon et sa grâce. Non pour nous maintenir dans l'abattement, dans l'apitoiement, dans la détresse. Mais c'est toujours pour nous ramener à la joie du pardon. La deuxième chose, c'est que la tristesse selon Dieu porte sur des faits réels. Et non sur un vague sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que la tristesse selon Dieu ou l'œuvre du Saint-Esprit nous convainc non pas que nous sommes des pécheurs, mais elle nous convainc de péché, d'un péché précis. Et ça, c'est important parce que nous serons toujours des pécheurs. Si on est toujours des pécheurs et que la tristesse selon Dieu nous convainc simplement d'être des pécheurs, on sera toujours triste. Mais si la tristesse selon Dieu se porte sur des faits, vraiment, sur des péchés que l'on a accomplis, elle pointe du doigt un péché et elle apporte le pardon, de sorte qu'on soit délivré de la culpabilité. Vous ne serez jamais délivré de la culpabilité d'être pécheur. Vous serez toujours pécheur. Mais vous pouvez être délivré de la culpabilité d'avoir fait tel ou tel péché, dit telle ou telle mauvaise parole. Lorsque David fut convaincu de sa culpabilité, c'était concernant le péché avec Bathsheba. Il a été convaincu d'adultère, il a été convaincu de mensonge, il a été convaincu de meurtre à l'égard du mari de Bathsheba, Uri. La tristesse, selon Dieu, elle est objective. Elle porte sur une désobéissance à la loi divine et non aux lois ou aux exigences des hommes. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que dans chaque société, il y a certaines exigences des hommes. Elles ne sont pas parfois ouvertement dites, mais elles font peser une certaine culpabilité dans un sens ou dans un autre. Par exemple, c'est de bon ton d'avoir un travail dans notre société. Celui qui n'a pas de travail, il est comme mis de côté, rejeté. Il se sent coupable de je ne sais quoi. Mais par rapport à des standards des hommes, celui qui est pauvre, je dis, je suis pauvre, je ne suis pas comme tous les autres. Et on se sent coupable d'être pauvre. Pareillement, d'autres se sentent coupables d'être riches. On réalise que ça, ce sont des exigences des hommes ou de notre entourage. Parfois, ce sont des exigences que les parents font peser sur leurs enfants, qui n'ont rien à voir avec les exigences divines, la loi de Dieu. Parfois, les enfants dont les parents divorcent se sentent coupables de la situation parce qu'ils sont parfois l'objet des disputes des parents. De même, les personnes victimes de violences physiques ou morales ou sexuelles se sentent victimes parce qu'elles pensent qu'on ne les violenterait pas si elles n'étaient pas quelque part coupables. Mais vous rendez compte, il n'y a pas de fait ici. Ce sont juste une pensée. On n'est pas coupable de ce genre de pensée-là. Et cette culpabilité-là, ça n'est pas la culpabilité qui provient de l'Esprit de Dieu qui pointe un péché dans notre vie. C'est la culpabilité diabolique du diable qui nous accuse ou qui cherche à nous déstabiliser, à nous détruire. Et il nous faut rejeter cette fausse culpabilité. Parfois, nous ressentons une certaine culpabilité en raison d'un péché que nous avons commis, puis confessé et abandonné. Cette fois, le diable, il use encore d'une autre ruse, c'est qu'il nous accuse une deuxième fois sur un péché qu'on a déjà confessé. Dans l'Apocalypse, il est appelé l'accusateur des frères. C'est une de ces ruses. Il pointe du doigt un péché qui a été confessé. Un péché qui a été confessé devant le Seigneur, pardonné. Alors ne vous laissez pas accuser par des faits périmés, si je peux dire. Nous devons rejeter cette fausse culpabilité. On n'est pas coupable deux fois pour le même péché. Quand la chose a été payée, aucune cour de justice du monde ne peut vous accuser pour ce péché. Et Dieu n'est pas moins juste que la justice des hommes. Et puis, le troisième point, c'est que la tristesse, selon Dieu, exige un sacrifice. La Bible parle du fardeau, du poids du péché. Dans le psaume 38, je lis quelques extraits, il est dit « Ta main s'est appesantie sur moi, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Avoir des remords, c'est porter tout seul sa faute, sans pouvoir s'en décharger sur quelqu'un. C'est cela, avoir des remords. Et c'est ce qui s'est passé pour Judas. Judas, il est allé voir les chefs du peuple. Il a dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Et qu'est-ce que les autres ont dit? Ça te regarde. Ils l'ont renvoyé à sa propre culpabilité, face à son propre péché. Le poids, le fardeau, on lui a laissé dessus, on ne l'a pas aidé à s'en décharger, d'aucune manière. Et c'est ce qui se passe quand on est juste pris par des remords. Alors que le repentir, c'est décharger sa faute devant Dieu, dans la confiance qu'il portera à notre place le poids de notre faute. Dans le psaume 32, au verset 3 et 4, il est dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. » Le verset suivant dit dans une version littérale « Et toi, tu as porté le poids de mon péché. » Et toi, tu as porté le poids de mon péché. Il s'est passé quelque chose ici pour David. Il a dit, ça y est, mon poids, le fardeau qui écrasait mon âme, eh bien, a été roulé sur toi. Il a été déposé sur toi. Et toi, tu as porté mon péché, le poids de mon péché. En effet, Dieu porte lui seul la faute afin d'en décharger totalement celui qui prie. Pierre, qui a fait cette expérience, écrit dans la première épître, dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 24, il dit « Lui, Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps par les meurtrissures duquel... lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La tristesse selon Dieu cherche à nous conduire à Christ crucifié pour nous décharger. » Je disais, la tristesse selon Dieu exige un sacrifice. Elle exige la mort. Et si vous regardez bien, il y a eu mort dans les deux cas. Le poids qui chargeait Judas l'a conduit au suicide. Il a dit, moi je ne mérite pas de vivre. Et il meurt. Et Pierre a dit, moi je ne mérite pas de vivre non plus. Mais il a déchargé son péché sur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a été frappé à sa place. Et il y a effectivement eu mort, mais la mort d'un autre, la mort d'un juste. La tristesse selon Dieu s'afflige d'avoir attristé Dieu. L'autre ne pense qu'à soi. L'une conduit à Christ, mais l'autre reste les yeux fixés désespérément sur elle. La tristesse de ce monde n'exige pas de sacrifice. Elle condamne à mort, simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à saisir. L'une est affligée par le prix que Christ a dû payer, et l'autre est déçue d'elle-même. Vous avez déjà ressenti ça? On pense, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais alors, je suis vraiment nul. Pourquoi j'ai... Et ça fait X fois que je retombe là-dedans. Mais nos yeux sont fixés sur nous. Et ça, c'est la tristesse selon le monde. La tristesse selon Dieu porte nos regards sur Jésus-Christ. Avoir des remords, c'est user des larmes sur soi-même. J'aurais voulu qu'il en soit autrement. Mais se repentir, c'est verser ses larmes devant Dieu. Et c'est ce que Pierre a fait. L'une a les yeux sur Christ, l'autre sur elle-même. Dans la première épître de Jean, vous connaissez bien ces versets, je voudrais quand même les relire. 1 Jean chapitre 1, verset 7, il est écrit... Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, chapitre 2, verset 1, je vous écris ces choses. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voyez-vous, la tristesse selon Dieu exige un sacrifice. Et Jésus-Christ a payé pour nos fautes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se lamenter. On n'a pas besoin de se culpabiliser encore et encore. Parce que Christ est notre sacrifice de culpabilité. Il ôte ce poids de nos péchés, de nos cœurs. Et puis, la tristesse selon Dieu a pour résultat la repentance. La tristesse des Corinthiens n'était pas celle de l'apitoiement sur soi. Ça n'était pas d'avoir été surpris en faute. Parfois, notre tristesse, c'est simplement d'avoir été coupable. Je commets l'adultère, puis un jour, ma faute est découverte. Ma femme demande le divorce, je perds mon foyer, ma famille, et puis là, je me sens tellement coupable. Mais si je n'avais pas été découvert, est-ce que j'aurais continué là-dedans? Les remords, là, portent sur le fait d'avoir été démasqué, et non pas sur ce que j'ai réellement fait. Ça n'était pas non plus une tristesse qui les a portés au désespoir ou à l'amertume ou à l'orgueil blessé. Vous savez, j'ai été pris, j'ai été montré tel que je suis vraiment humilié. Ça ne sont pas non plus des remords manipulateurs. Non, leur tristesse les a conduits à la repentance, qui est un changement d'attitude et de vie, un rejet du péché au profit de la sainteté. Elle a produit un changement véritable. Ils ont été transformés à l'égard de l'apôtre Paul. Leur communion a été rétablie. L'apôtre Pierre a été conduit également à la repentance. Il a été transformé dans son âme, dans son cœur. Il n'était plus impétueux et sûr de lui comme avant. Il est devenu humble, dépendant de Christ, et désireux de le glorifier lui seul. La repentance nous tourne vers celui que nous avons offensé pour lui ouvrir notre cœur dans une demande de pardon. Par contre, les remords laissent le cœur replié sur lui-même. Le cœur ne s'ouvre pas, alors il reste dans sa souffrance et sa souffrance s'aggrave. Le remords est tourné vers le passé. On regrette la faute passée. Et toutes nos pensées, c'est « Ah, si seulement je n'avais pas fait ça !» Mais vous ne pouvez pas changer le passé. Alors on demeure sur cette culpabilité. La repentance, elle, est tournée vers Dieu et elle nous ouvre les portes de l'avenir, de l'espérance. Le remords ne connaît pas l'espérance. La souffrance de la repentance, elle découle aussi d'une faute passée, mais elle s'ouvre au futur, à la perspective de la grâce de Dieu, cette grâce que Dieu accorde aux coupables. La tristesse du monde produit le remords, l'orgueil blessé, l'apitoiement sur soi, les espoirs déçus. Mais il n'y a pas de puissance de guérison et aucune capacité transformatrice, aucune capacité salvatrice. Elle produit la culpabilité, elle produit la honte, elle produit le ressentiment, elle produit l'angoisse, elle produit le désespoir, elle produit la dépression, l'impuissance même. Et dans le cas de Judas, la mort. Si Judas était coupable, la foule qui s'est réunie à Pentecôte l'était également. Judas avait vendu son maître. La foule a crié unanimement « Crucifie-le ! Crucifie-le ! Crucifierai-je votre roi ? Nous n'avons pas d'autre roi que César !» Et l'apôtre Pierre, qui a connu cette repentance-là, va leur dire en Actes chapitre 2, va leur rappeler effectivement qu'ils sont coupables. Chapitre 2, verset 23 des Actes, il est dit « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu » vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Au verset 36, il leur rappelle encore « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Voyez la tristesse selon Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit y pointe du doigt le crime. Et ils sont là, assaillis par cette culpabilité. Ils réalisent, cette fois-ci, ce sont leurs yeux à eux qui s'ouvrent. C'est comme si le coq chante. Ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait. Et puis ils sont pitoyables. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Pierre leur ouvre aussitôt la porte, vers la voie vers la repentance. Il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. » Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Voyez, il ouvre la porte de l'espérance, il ouvre la porte au pardon. Il dit « La promesse, elle est pour vous. Je m'en suis saisi, moi, pour le pardon, pour recevoir le pardon qui est en Christ. Et la promesse, elle est faite pour vous aussi. Saisissez le pardon que Dieu vous offre. Approchez-vous de lui et repentez-vous. Cessez de pleurer sur ce que vous avez fait. Pleurez sur ce que Christ a dû faire pour vous. Et recevez-le comme votre sauveur. » C'est cela qui est merveilleux. Et la repentance, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qu'on peut commencer une autre vie et en changer une. Et il leur dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. C'est-à-dire, voilà, vous allez comme mourir à cette vie passée et puis renaître à une vie nouvelle. Il y a une transformation, un changement radical dans votre vie, un nouveau départ que vous prenez. C'est possible. C'est possible par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Ce qui manquait à Judas, c'était cela. C'était simplement de se confier sur ce que Jésus-Christ faisait. Il était en train d'être livré, de mourir pour lui. Cessons de nous apitoyer sur nous-mêmes. Portons nos regards sur Jésus-Christ. Et saisissons-nous, emparons-nous de son pardon. Tels que nous sommes. Portons nos regards sur Christ et non plus sur nous. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de ce que, par ta bonté, ta grâce, Seigneur, tu as ouvert une porte d'espérance pour chaque cœur qui est coupable. Seigneur, au moment où le coq a chanté, l'évangile de Luc nous rapporte que Jésus a regardé Pierre. Il l'a regardé de ce regard qui sonde au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, certainement, tu nous regardes aussi. Et tu nous vois tels que nous sommes. Ce qui nous émerveille, Seigneur, c'est quand tu nous vois tels que nous sommes réellement, tu ne te détournes pas de nous, mais tu nous aimes. Et tu es allé jusqu'au bout, pour l'apôtre Pierre comme pour nous. Tu t'es livré en sacrifice pour nos péchés. Tu l'as fait par amour pour nous, lorsque nous étions détestables, lorsque nous ne t'aimions pas, lorsque nous ne te cherchions pas. tu le fais encore à plus forte raison. Maintenant que nous sommes tes enfants, que nous aspirons à t'aimer, à te suivre, à te plaire, même si nous ne pouvons le faire qu'imparfaitement. Seigneur, c'est ce que nous voulons et nous te demandons de nous secourir. Seigneur, permets-nous de détourner nos regards de nous-mêmes et de les porter sur toi. Toi qui nous as aimés, toi qui as été condamné à notre place, toi qui nous affranchis, qui nous libère de ce poids de culpabilité. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous permets de commencer une vie nouvelle, une vie transformée, changée, une vie qui est à ta ressemblance, un peu plus. Et Seigneur notre Dieu, parfois, même après des années, on est obligé de faire ce même constat. Mais Seigneur, nous voulons nous en saisir et nous saisir pleinement de ton pardon et repartir avec toi, comptant encore sur ton amour et sur ta grâce qui ne dépendent pas de nous. Merci Seigneur notre Dieu de le faire. Par Jésus-Christ. Amen.